Bonjour les amis, depuis Pessac, où triomphe le jardin verdi par les trombes printanières. Nous nous étions quittés en février à Chiang Mai en Thaïlande, où Brigitte et moi avions établi nos quartiers d'hiver. J'y observais la présence chinoise puissante et diversifiée, à commencer par la très colorée paroisse de Chinois musulmans Hui, en son marché de vendredi matin autour de la mosquée Masjid, une communauté ayant fui 2 siècles plus tôt les pogroms et brimades de son Yunnan natal, 1000 kilomètres plus au nord. Régulièrement, je rencontrais aussi les Chinois de la nouvelle vague d'exode, les jeunes instruits des grandes villes, fuyant les persécutions du pouvoir central. C'était pour moi fascinant de rencontrer ce monde en fuite, ayant délibérément choisi une vie plus pauvre mais libre en Thaïlande, prospérant sur la denrée rare de la liberté, oxygène social. Pour la plupart, ces nouveaux émigrés s'étaient inventé un nouveau gagne-pain lié à cette liberté d'entreprise. Ils exerçaient un métier indépendant comme restaurateur, répétiteur d'école ou exportateur vers la Chine de produits thaï 3 fois moins chers par l'intermédiaire des grandes galeries marchandes telles Alibaba ou Pinduoduo, cette dernière étant plus connue en Europe sous le nom de Temu. Ces jeunes diplômés, me disait-on, la fine fleur des écoles de Chine, s'étaient exilés en liberté sous l'ombrelle de soie du royaume thaïlandais pour expérimenter et créer ensemble une vie nouvelle interdite en Chine. Ils créaient des groupes de discussion, des coopératives, des écoles anti-autoritaires. Dans ce vase clos, ils étaient le levain de la Chine de demain, un levain où la créativité était reine, tant que le pouvoir centralisateur pékinois les laissait faire, sans orchestrer leur arrestation, leur enlèvement ou leur retour forcé au pays. Créativité et inventivité, voilà justement ce qui manque à la Chine du post-Covid. Je parle cette fois de la Chine économique anémiée sous les contrôles sévères et les préchats du pouvoir central qui ne parvient pas à remonter la pente. Après le désastre de la pandémie en Chine, où à 2 reprises entre 2020 et 2022, la quasi-totalité de la population avait été incarcérée à la maison sous la police anti-Covid la plus sévère du monde, le gouvernement avait mollement tenté de réparer tout cela, de regagner la confiance des investisseurs étrangers et celle du peuple, et de redonner aux Chinois l'esprit d'entreprise et le goût du risque. Mais ce qu'on voit le plus en Chine est plutôt le contraire, des jeunes qui préfèrent se coucher plutôt que de travailler de façon éreintante 9 heures par jour, 6 heures par semaine, ne pas se marier et surtout ne pas faire d'enfants. C'est trop cher et à quoi bon dans un état policier? En dépit de quelques succès, l'opération de relance par l'État chinois tarde donc à convaincre. Certes, les acheteurs grossistes européens ont repris le chemin des usines chinoises et recommencé à passer leurs commandes. Chargés de biens de consommation made in China, les navires porte-conteneurs cingle à nouveau vers les ports du vieux continent. BYD ou Chery, les nouvelles marques auto, déploient leur gamme de voitures à des prix imbattables. Avec 3 millions de véhicules en 2023, BYD vient de battre Volkswagen comme premier vendeur mondial de voitures électriques. Au dernier trimestre, le pays a réalisé une croissance de 5,2%, atteignant ainsi de justesse son objectif. Il se maintient donc dans son rôle irremplaçable d'usine du monde. C'est tout à sa gloire, une gloire teintée de sueur, de bas salaires et d'accidents du travail. Mais derrière ces résultats flatteurs, d'autres bilans se profilent qui n'ont rien de glorieux. De janvier 2021 en plein Covid à 2024, les places financières de Shanghai et de Shenzhen ont fait griller et disparaître 7000 milliards de dollars de valeur boursière, fruit de corruption endémique malgré 10 ans de lutte anticorruption sans compromis. Faute de marché, des milliers d'usines redondantes ferment, laissant des millions d'ouvriers sur le carreau. L'an passé, l'exportation a quand même reculé de 5% et au dernier trimestre, les salaires se sont contractés de 1,3%. Le chômage des jeunes a progressé de 6%. Ce sont ainsi 15% des jeunes chinois qui ne trouvent plus d'emploi. Et encore, tout le monde le sait, ces chiffres sont trafiqués par le Bureau national des statistiques afin d'édulcorer la potion amère, la réalité du chômage des jeunes étant d'au moins du double, soit 30 à 50%. Le commerce intérieur stagne, forçant, comme l'an passé, les producteurs à couper massivement leurs prix en un dumping monstrueux qui fait vendre à perte presque tous les produits chinois. Peut-être avez-vous vu d'agressives publicités pour des panneaux solaires à prix toujours plus bas. Elles cachent, mal d'ailleurs, que dans tous les ports d'Europe, entre Rotterdam, Le Havre, Hambourg et Liverpool, les entrepôts sont pleins à craquer de panneaux solaires chinois invendus. Face à cette spirale diabolique des baisses des prix, les acheteurs préfèrent attendre que tout cela se stabilise pour être sûr d'acheter au meilleur prix. Si la Chine consomme moins, c'est par méfiance et par peur de l'avenir. Dans la classe moyenne, les derniers riches, les parents sur la cinquantaine, se retrouvent avec à charge leurs enfants au chômage, tandis que leur épargne apparaît soudain fragile, non protégée, ayant investi dans un immobilier dont la valeur chute et qu'ils n'ont souvent pas fini de payer. Pensez à Evergrande, le géant de la construction, dont les dettes se montent en centaines de milliards d'euros et qui se trouve déjà en faillite à Hong Kong et aux États-Unis. En Chine même, l'État tergiverse, essayant d'étaler sa fermeture sur une dizaine d'années pour éviter l'avalanche de tout le secteur, ou pire, par rebond, le crash général. Face à cette panique des acheteurs et des usines, les provinces se trouvent en grande difficulté, s'étant endettées ces dernières années dans les ponts, les routes et les barrages et les aéroports qui ne fonctionnent pas et qu'elles ne parviennent pas à rembourser. De même, les banques souffrent, surtout les banques locales moyennes, celles qui ont fourni l'argent des chantiers et qui se retrouvent en cessation de paiement, quoique interdites de faillite. Une question. Dans cette Chine de 2024, qui souffre le plus? Les centaines de millions de migrants, ceux qui occupent les emplois les plus précaires de maçons ou de coiffeuses et qui sont laissés largement en dehors du parapluie national de protection sociale. Seuls 50% des Chinois ont le bon permis de résidence, celui qui ouvre droit à l'école gratuite, à la retraite, aux soins hospitaliers gratuits et de qualité. Les autres demeurent des citoyens de seconde classe, trop souvent au chômage et tirant les salaires vers le bas. Une autre catégorie vulnérable est celle des jeunes adultes. En juin, quand seront remis les diplômes universitaires de fin d'études, la Chine s'attend à voir arriver sur le marché du travail 12 millions de jeunes dont la majorité attendra longtemps et se retrouvera vouée à végéter dans des emplois en dessous de ses compétences et de ses attentes. Ici, la Chine paie pour ses 40 ans de planning familial qui a réduit les naissances à une par famille, économisant ainsi 200 millions de bouches à nourrir. Mais à présent que l'État tente de relancer les naissances en autorisant 3 enfants par couple, les jeunes en ont perdu le goût et ne veulent rien entendre. En définitive, le problème numéro 1 de la Chine est donc sa natalité. le fait de vieillir trop vite avant d'avoir eu le temps de devenir riche. On calcule qu'en 2050, c'est-à-dire demain, tout actif devra en moyenne payer les pensions de 4 retraités, ce qui est évidemment insupportable. Nous avons là une société en décroissance démographique et sur un plateau économique, mais qui doit encore caser ces jeunes nés en 2020 d'une autre époque, aujourd'hui dans une économie incapable de les absorber. Pour remonter la pente, le Premier ministre Li Qiang fait feu de tout bois. Par 2 fois en 7 mois, dans des forums économiques mondiaux dont celui de Davos, il multiplie les promesses sucrées aux grands investisseurs étrangers, multinationales qui boudent la Chine, déçus par les règlements chinois trop tatillons, le protectionnisme et les différences flagrantes de traitement de leurs industries en Chine par rapport aux libertés des entrepreneurs chinois en Occident. Li Qiang, par exemple, permet désormais aux groupes étrangers de stocker chez eux leurs fichiers jusqu'à 1 million de clients et promet de rouvrir un robinet des visas bloqués depuis 3 ans sous prétexte de Covid. Mais tout cela est beaucoup, beaucoup trop peu pour rassurer le monde. D'autant qu'en même temps, Pékin continue à émettre des mauvais signaux hostiles, par exemple en faisant désinstaller dans ses ordinateurs publics les puces et logiciels américains de groupes tels Intel, Qualcomm ou Microsoft, pour les remplacer par les mêmes produits made in China, moins performants. Au China Development Forum de Pékin, les 24 et 25 mars, un curieux incident vient d'illustrer l'incapacité de cette Chine psychorigide à assouplir ses vieilles habitudes staliniennes. À ce sommet auquel participaient des centaines de patrons d'affaires du monde entier, le Premier ministre Li Qiang n'a pas osé rencontrer directement les invités et s'est contenté de leur faire un beau discours. Si Li Qiang n'a pas osé parler aux chevaliers d'industrie euro-américains, c'est pour ne pas risquer de perdre sa place. Mais cela montrait bien que Xi Jinping restait le patron de toutes choses et que personne en Chine, à part lui, ne peut se permettre de prendre une responsabilité. D'où la stagnation et l'incapacité du pays à s'ébrouer et à se renouveler, sauf pour les citoyens assez audacieux pour oser s'exiler en Asie ou ailleurs dans le monde. Finalement, cette affaire de la non-réception des hôtes de marque par le Premier ministre a fait une telle mauvaise impression que sous 48 heures, Xi Jinping en personne a fini par rencontrer ses visiteurs, mais le mal était fait. Bon. Dans ce marasme, j'aurais quand même une bonne nouvelle, une éclaircie. Figurez-vous que le gouverneur de la Banque centrale, Pan Kongsheng, vient d'annoncer que pour contourner les sanctions commerciales américaines et européennes, il allait rendre l'euro la seconde monnaie du pays à seule fin de soutenir les exportations chinoises. Parmi les centaines de millions d'euros de réserves en devises, une partie va donc être décaissée pour booster les exportations en offrant aux vendeurs la garantie de bonne fin. Ainsi, la Chine espère accélérer l'inondation de l'Europe et du monde en millions de voitures électriques, en dizaines de centrales nucléaires, en milliers de gros navires commerciaux, en centaines de rames de ces TGV dont il fournira en plus les lignes, les gares et la signalisation. Un véritable rêve pour les patrons chinois et cauchemar pour ceux européens. Bon, cette nouvelle aurait été un scoop extraordinaire et une véritable manière pour la Chine de se réinventer. Le seul petit problème est qu'elle n'existe pas. Elle est impossible, puisque le volume d'euros nécessaire pour telle opération dépasserait au centuple la disponibilité en devises. Et puisque la mauvaise monnaie, le yuan, chasse la bonne monnaie, l'euro, impossible de les faire coexister en concurrence sur le marché chinois. Le passage de la Chine à l'euro serait également inutile, puisque la Chine n'a pas à payer pour vendre ses produits. C'est l'acheteur qui fournit ses devises, quitte pour la Chine, aller mettre au frais ce qu'elle fait, ou bien aller changer en yuan petit à petit, de manière à ne pas faire chuter le cours de son patrimoine en euros. En somme, si cette nouvelle est fausse et non avenue, et si je m'empresse avec contrition de vous le confesser, c'est pour une pure raison de date. Vous l'avez sans doute depuis longtemps deviné, le jour où j'enregistre cet épisode est le 1er avril, jour des célèbres poissons, ceux qu'au temps de notre enfance nous accrochions au dos des copains ou copines à l'école. Et puisque ce jour, cette année, se confond avec le lundi de Pâques et que mon petit poisson se confonde avec les œufs et les lapins en chocolat dont les enfants entament la chasse dans le jardin, comme nous l'avons tant fait ma femme et moi avec nos amis dans les ruines des tombeaux des Ming aux portes de Pékin. Puis enfin, à l'occasion, qu'on se rappelle que 2000 ans en arrière, dans les communautés chrétiennes de ce continent qui ne s'appelait à l'époque pas encore la Chine, dans l'actuel Xinjiang, les églises primitives se décoraient aux effigies de poissons, symboles de banquet, d'amitié, de chant et de joie partagée. Ami auditeur, que ce jour t'apporte joie, paix et soleil, qu'il t'apporte aussi la vie renouvelée, puisque c'est dans ces termes que le nom de Pâques est transcrit en mandarin. Joyeuse Pâques à tous! Fou roi, quoi là!